en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'émission En habit vert est aujourd'hui consacrée à l'académicienne Mireille Delmas-Marty. Professeure au Collège de France depuis 2002, elle occupe la chaire Études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Elle est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, où elle a été élue récemment, le 22 mai 2007, dans la section Morale et sociologie, au fauteuil laissé vacant par le décès de Jean Cazeneuve. Sa carrière revêt un caractère international puisqu'elle a été professeure invitée dans la plupart des grandes universités européennes, ainsi qu'aux États-Unis, en Amérique latine, en Chine, au Japon. Elle a enseigné le droit à l'université pendant une trentaine d'années, principalement à Paris et Sorbonne. Elle a dirigé des recherches à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales, mais aussi au sein de l'Association de recherches pénales européennes qu'elle a créée en 1991. Outre ses activités d'enseignement et de recherche, elle a exercé et exerce encore une activité d'expert auprès de la présidence de la République et de différents ministères, ministère de la Justice, de la Recherche, des Affaires étrangères et aussi auprès de l'Union européenne. Mireille Delmas-Marty également appartient à plusieurs comités de rédaction de revues juridiques, de droit comparé ou à caractère international. Et elle a reçu de nombreuses distinctions honorifiques, comme il se doit, serait-on tenté de dire, devant un tel parcours. À titre d'exemple, disons qu'elle est, par exemple, membre associé de l'Académie royale de Belgique. Parmi ses ouvrages les plus récents, et il y en a beaucoup, on peut citer « Le flou du droit »,« Juridiction internationale et crimes internationaux », mais aussi « Les sources du droit international pénal », »,« De point l'expérience des tribunaux pénaux et internationaux » et « Le statut de la Cour pénale internationale ». Vous avez écrit aussi « Vers un droit commun de l'humanité ». Et puis, un de vos livres phares, « Les forces imaginantes du droit en trois volumes », Le relatif et l'universel, le pluralisme ordonné, la refondation des pouvoirs, et enfin, La Chine et la démocratie, votre dernier ouvrage publié récemment en décembre 2007. Alors, vos activités, les intitulés de vos ouvrages, vos recherches montrent que l'internationalisation du droit est au cœur de vos interrogations. Mireille Delmas-Marty, bonjour.
Bonjour.
Trois volets. Votre parcours, votre enseignement au Collège de France depuis 6 ans, vos travaux en cours vont constituer les séquences de cette émission. Alors, pour commencer cette séquence consacrée à votre parcours, Mireille Delmas-Marty, d'où vous vient votre passion du droit?
Alors, est-ce qu'il faut parler de passion? Je crois qu'au départ, c'était surtout une grande curiosité. Vous savez, j'ai commencé mes études de droit dans les années 60. La France venait de changer de République. Et au fond, les cours de droit me donnaient l'impression, c'était peut-être une illusion, de comprendre les mécanismes de l'organisation sociale et politique de mon pays. Et ça, c'était passionnant.
Oui.
On avait un grand constitutionnaliste, le doyen Vedel,
ah, oui.
À la fois d'une clarté exemplaire, lumineuse et en même temps beaucoup d'humour.
Qui a été académicien de l'Académie française.
Bien sûr. Et c'était un grand maître que nous admirions de loin parce que les amphithéâtres étaient bondés, on était souvent assis par terre.
Oui.
Et c'était une ambiance très fervente, je dirais. Simplement, à l'époque, le droit était plus simple qu'aujourd'hui.
Oui.
Et cette curiosité de départ, elle s'est transformée peut-être en un intérêt encore plus profond lié à ce que le droit ayant beaucoup changé, est devenu une sorte de défi pour les juristes. Comment arriver à penser le droit à l'heure actuelle, c'est-à-dire à l'heure de l'européanisation, de l'internationalisation, de la mondialisation. Autant de mots affreux à prononcer, mais affreux aussi à décrire quant au processus qu'il recouvre. Donc voilà, je dirais plutôt curiosité, défi. Et maintenant, le mot-clé pour moi, qui peut vous surprendre, mais c'est le mot que j'ai repris d'ailleurs dans ma série des cours au Collège de France, c'est le mot imagination.
Oui.
C'est pas la qualité première qu'on attend du juriste. Et pourtant,
les forces imaginantes du droit.
Voilà, le titre de la série, c'est les forces imaginantes du droit. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, les juristes sont au pied du mur. ils doivent faire preuve d'imagination pour arriver à maîtriser l'extrême complexité des dispositifs juridiques qui se mettent en place.
Mireille Delmas-Marty, vous avez passé une agrégation de droit privé et sciences criminelles en 1970. Aviez-vous d'abord un projet de recherche particulier à ce moment-là, mais parce qu'aujourd'hui vous êtes directrice d'une revue, la revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé depuis 1984, et semble-t-il vous n'avez jamais abandonné ce domaine du droit. Mais en même temps, vous évoquiez la complexité du droit aujourd'hui, son évolution, et vous êtes fondatrice et coéditrice de la collection Les Voies du droit. Alors, tous les droits sont intéressants et vos recherches montrent que vous êtes aussi intéressée au droit économique. Alors, comment fait-on pour s'y retrouver? Et j'imagine que c'est peut-être aussi un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, le droit comparé est si développé.
Je ne sais pas si on s'y retrouve.
Mais oui, parce que moi, j'ai du mal.
Mais je peux essayer de vous expliquer les enchaînements.
Oui.
Je n'avais pas de projet, en fait. J'ai un peu navigué à vue tout au long. Alors, mon idée, quand j'ai fait des études de droit, c'était de devenir avocate. Donc, comme avocat, il fallait privilégier le droit privé et les sciences criminelles. Disons que, comme chercheur, j'étais déjà plutôt attirée par le droit international et le droit comparé. Mais, voulant m'ouvrir la profession d'avocat, j'étais tenue de choisir la voie plus rigoureuse et plus austère, d'une certaine manière, droit privé et sciences criminelles. Je ne le regrette pas du tout, parce que c'est une école de rigueur extraordinaire. Et
d'accord.
Ça, c'est quelque chose d'acquis,
oui,
auquel je tiens énormément. Alors, ayant fait ce choix, il fallait donc faire une thèse pour présenter l'agrégation. Mon professeur de droit pénal à l'époque était le professeur Bouvoin, Robert Bouvoin, que j'admirais beaucoup. C'était un esprit extrêmement synthétique. Là où ses collègues faisaient des longs développements, il arrivait en quelques phrases à dire l'essentiel de façon très pertinente et percutante à la fois. Et il m'avait suggéré de faire une thèse de droit pénal avec lui. J'ai trouvé que c'était merveilleux d'avoir un professeur qui s'intéressait suffisamment à ses étudiants pour proposer un sujet de thèse. Donc, j'ai fait une thèse sur un sujet assez technique de droit pénal de la construction, mais qui m'a ouverte sur le droit pénal et les sciences criminelles. Et après l'agrégation, j'ai continué pendant pas mal d'années à enseigner le droit pénal. Alors, je m'étais spécialisée assez vite, dans le prolongement de ma thèse, dans un domaine qui, à l'époque, n'existait pas vraiment, n'était pas enseigné, il n'y avait pratiquement pas d'ouvrage.
Lequel
était le droit pénal des affaires.
D'accord.
C'est-à-dire pas le droit pénal ordinaire,
oui,
les crimes de sang auxquels on pense tout de suite, ou le vol à la tire, mais les incriminations, les infractions liées aux affaires. Donc, ça m'amenait déjà sur un terrain, je dirais…
Novateur.
Novateur parce qu'il était peu enseigné ou pas du tout. Et en même temps, sur une interface, l'interface entre le droit pénal et l'économie. Ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur le droit économique.
Oui.
Et puis alors, au fil de mes enseignements, j'ai été amenée à élargir la réflexion du droit pénal à la politique criminelle, c'est-à-dire à l'ensemble des procédés juridiques de contrôle social. Par exemple, en droit des affaires, on s'aperçoit que certaines sanctions sont pénales, mais d'autres sont administratives et ont pratiquement le même effet dissuasif. Elles sont quelquefois même plus dissuasives parce que les amendes sont plus élevées. Donc, on se rend compte que la division des disciplines juridiques entre le droit pénal et le droit des sanctions administratives est assez artificielle.
Oui.
Maintenant, si on regarde du côté de la délinquance de droit commun, on s'aperçoit aussi qu'il est artificiel de distinguer les sanctions pénales des mesures de défense sociale prises contre les étrangers ou contre les malades mentaux en dehors du droit pénal. Donc, petit à petit, j'ai élargi ma sphère du droit pénal à la politique criminelle qui m'amenait au droit comparé.
Oui.
Qui m'amenait à voir que ce qui est pénal dans un pays est civil dans un autre, administratif dans un troisième. Et que par conséquent, si on veut comparer, on ne peut pas s'enfermer dans une catégorie juridique. Il faut aller au-delà, il faut avoir une sorte de vision plus synthétique des choses. Et cette réflexion m'a amenée sur le terrain de la théorie du droit, d'où la création de cette collection Les Voies du droit, qui est une collection d'essais comme on ne peut pas à soi tout seul faire grand-chose, mais en revanche, en équipe, on peut faire beaucoup plus. L'intérêt d'une collection comme ça, c'était d'ouvrir des pistes de réflexion un peu dans tous les domaines du droit. Donc voilà un peu comment ça s'est fait par glissements successifs. Et puis, travaillant sur la politique criminelle comparée, je voyais des mouvements apparemment très désordonnés. Tantôt on dit on dépénalise, tantôt on repénalise ou on criminalise, tantôt on dit il faut moins de contrôle de l'État, il faut faire entrer davantage la société civile, des médiations privées, tantôt on dit au contraire il faut de nouveau renforcer l'autorité de l'État, il faut donner plus de pouvoir à la police, plus de pouvoir au parquet. Donc je voyais des mouvements dans des sens opposés et ça m'a amené à me poser la question, qu'est-ce qui donne une cohérence à tout cela ? Et cette question, j'ai commencé à me la poser au début des années 80, quand j'ai ouvert ce séminaire à l'École des études en sciences sociales dont vous avez parlé. Je réunissais des collègues et des doctorants et on se posait ensemble cette question. Et ça nous a amené à découvrir le rôle coordinateur, le rôle de mise en cohérence que commençait alors à jouer, tout juste, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça m'a amené
à vous intéresser.
Pas du tout pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons techniques, à voir qu'il y avait une influence croissante qui apparaissait à travers, non pas les droits de l'homme, mais le droit des droits de l'homme.
Le droit des droits de l'homme.
Donc, élargissement progressif. Et puis, à partir du moment où intervenait l'Europe, eh bien, c'était une ouverture sur l'internationalisation du droit. C'était la découverte qu'il est difficile, et ça l'est encore plus 20 ans plus tard, de penser le droit uniquement à partir du droit national. Le droit inter, voire supranational, qu'il soit européen ou mondial, prend une importance de plus en plus grande. Je dirais qu'on le veuille ou pas. C'est un processus qui s'est mis en place, qui est accéléré au fil du temps. Et donc, c'est ainsi que, sans l'avoir du tout prévu d'avance, ce n'était pas un projet à l'origine, je me suis trouvée sur... amener encore un autre glissement et à travailler sur l'internationalisation du droit. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que je retrouve mon point de départ, car le droit pénal, qu'on considère traditionnellement comme le monopole des États, droit de punir, monopole de la souveraineté nationale, eh bien, il est en première ligne. Il est en première ligne de l'internationalisation, que ce soit au niveau européen, les deux tiers des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernent des affaires pénales, ou que ce soit au plan mondial, la première véritable cour internationale, c'est la Cour pénale internationale créée pour juger les crimes les plus graves. Donc, je retrouve le droit pénal. Je retrouve aussi, ce qui est encore plus extraordinaire, je retrouve aussi le droit économique. Avec le droit pénal des affaires, je vous avais dit, je faisais le lien entre droit pénal et droit économique. Or, avec l'internationalisation,
avec l'OMC,
avec
tous ces
la création de l'Organisation mondiale du commerce, avec le droit des contrats internationaux, l'économie ou plus largement le marché qui est même un concept à prétention universelle, se retrouve aussi en première ligne. Donc voilà, c'est un mouvement totalement imprévu au départ, mais qui après coup, quand on le regarde avec un peu de distance, a une certaine logique. Me semble-t-il, en tout cas.
Oui. Est-ce que vous jugez important d'être au carrefour de la théorie et de la pratique d'une discipline ? Vous êtes très attachée, Mireille Delmas-Marty, au développement des relations entre théoriciens et praticiens du droit. Vous êtes membre fondateur de l'Association des recherches pénales européennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association ? Parce que justement, elle a l'air d'illustrer cette mise en relation.
Oui, alors c'est peut-être venu de mon travail d'expert. Vous l'avez rappelé, j'ai été à plusieurs reprises invitée, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle européenne, soit à l'échelle mondiale, à participer à des travaux d'experts. Donc à l'échelle nationale, c'était pour la rédaction du code pénal et puis ensuite pour la réforme de la procédure pénale. À l'échelle européenne, c'était pour une réflexion sur... ce qui pourrait devenir, c'est encore en débat, un futur procureur européen. Et à l'échelle mondiale, j'ai participé aux travaux de la Commission qui a fait des propositions qui sont devenues les premiers tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.
Ça a dû être une expérience extraordinaire.
Alors, ce que je tire de ces expériences d'experts, c'est que c'est très enrichissant. Alors, quand on est plutôt théoricien, ce que je suis comme universitaire, c'est très enrichissant de découvrir les contraintes du réel, de découvrir la limite des systèmes de pensée ou même, je dirais, de la pensée de système, de confronter la théorie au réel. Et c'est quelque chose qui est irremplaçable. Sinon, on peut faire effectivement des systèmes qui sont magnifiques en théorie, mais qui ne tiennent pas une minute confrontés au réel. Donc ça, j'ai appris très tôt dans les premières commissions d'experts qu'il fallait s'astreindre à ce travail, qui suppose des rencontres, pas forcément des commissions officielles. Ça peut être sous forme de rencontres plus informelles. J'ai d'ailleurs récemment créé, depuis que je suis au Collège de France, que j'ai appelé les réseaux IDÉE, en jouant sur IDÉE, internationalisation du droit, mais ça veut dire aussi imagination et droit.
Oui.
Et puis, ce sont des réseaux où on est supposé trouver de bonnes idées
oui.
pour traiter ces problèmes d'internationalisation. Et là, il y a à la fois des universitaires, des chercheurs, des théoriciens et des praticiens, des grands juges, des juges de Cour suprême, des grands juges, mais des gens qui sont, par leur fonction même, confrontés aux contraintes du réel. Alors, j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose d'interactif, parce que ceux qui sont confrontés aux contraintes du réel nous apportent un savoir qui est irremplaçable pour éviter de partir dans des théories irréalistes. Peut-être que de notre côté, ce que nous apportons, c'est une certaine façon de synthétiser, c'est-à-dire au-delà des cas particuliers, de voir les logiques souvent implicites qui sont derrière les solutions pratiques données cas par cas. Donc, je crois vraiment qu'il y a une complémentarité.
Et la ligne de conduite s'édicte comment alors c'est d'abord
La ligne de conduite, je crois qu'il y a une partie de prédisposition. On est plus attiré par l'action sur le réel ou on est plus attiré par la théorie. Moi, personnellement, je reste quand même plus du côté de la théorie. Et quand je suis invité comme expert, j'apprends beaucoup pour enrichir ma théorie. Alors, mes synthèses, je les mets à disposition.
Bien sûr.
Mais je ne suis pas en position de les mettre moi-même en application. Donc, elles sont à disposition des décideurs.
Et vous trouvez que la réflexion théorique a du poids, justement, sur la mise en œuvre des politiques
Elle ne suffit jamais à elle seule. Je crois que c'est une grande leçon de modestie. Il ne suffit pas de faire un beau système parfaitement logique et rationnel et même tenant compte des contraintes du réel pour qu'il entre en vigueur. Il y a des conditions politiques, économiques qui s'y ajoutent. Donc, il y a une leçon d'humilité qui ramène à ce que je disais tout à l'heure, on ne fait pas à soi tout seul changer les choses. Mais en même temps, si on n'a pas fait ce travail théorique préalable, au moment où les choses deviennent possibles, sont prêtes à changer, si le travail préparatoire n'est pas fait, il ne se passe rien. Et là, l'expérience que j'ai eue avec le projet européen est une expérience à mi-parcours. Mais j'ai constaté que nous avions été amenés avec des collègues de différents pays européens à constituer un groupe d'experts pour réfléchir sur la possibilité d'avoir, dans le domaine des fraudes au budget de l'Europe, une structure européenne harmonisée. Et la grande figure centrale de cette structure, que nous avions appelée Corpus Juris, un peu par référence au droit romain, c'était la figure du procureur européen. Or, quand les débats de la Convention sur le traité constitutionnel se sont greffés sur nos travaux, eh bien, assez naturellement, les auteurs de la Constitution ont inscrit le procureur européen dans leur texte.
Oui.
Il est d'ailleurs repris par le traité de Lisbonne. S'il n'y avait pas eu ce travail théorique préalable, il n'y aurait sans doute pas eu de procureur européen. En même temps, ce qui est frustrant, c'est qu'il n'a pas été créé tout de suite. Nous avons remis notre rapport au début des années 2000 et il n'existe pas encore. Donc, il faut beaucoup de patience. Mais je crois que cette interaction de la théorie et de la pratique et très pertinente.
Et est-ce qu'il y a des éléments de ces travaux, justement, sur, à l'échelle, qui concernaient l'échelle européenne, que vous appliquez aux problématiques actuelles que vous avez choisies, disons à l'échelle mondiale? Est-ce qu'il y a des contenus, des politiques
beaucoup.
De formation, des méthodes? J'imagine que vous avez puisé dans ce premier laboratoire, puisque presque aussi un de vos mots préférés.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, je l'emploie beaucoup. Je l'ai employé récemment avec vous ici même à propos de la Chine. Et si je l'ai employé à propos de la Chine, c'est par analogie avec le premier emploi que j'ai fait du mot laboratoire, c'est à propos de l'Europe, laboratoire européen. En disant que c'est un laboratoire à la fois d'analyse, mais aussi d'expérimentation sur la manière de bâtir un droit commun à partir de systèmes juridiques différents. Alors, en Europe, ils sont assez différents, mais moins différents qu'à l'échelle mondiale. En même temps, en Europe, il y a une situation inédite qui ne se retrouve dans aucune autre partie du monde, et je tiens toujours à le souligner parce qu'on le perd de vue quand on est européen soi-même, c'est qu'il y a, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être dans la discussion d'interdépendance entre les pays européens, une volonté de bâtir un droit commun.
Oui.
Or, aucun des pays européens n'est en position d'imposer son système aux autres. Donc, si c'est nous faisons un droit commun, c'est forcément un droit commun pluraliste. On ne peut pas en Europe, fort heureusement, compte tenu d'une histoire que chacun connaît, on ne peut pas ou on ne peut plus tenter de faire un droit commun hégémonique. Il y a eu l'Empire romain, il y a eu Napoléon, il y a eu l'Empire britannique, il y a eu les tentatives de l'Allemagne. À l'heure actuelle, tout ça est dépassé. Et donc, c'est un laboratoire extraordinaire du pluralisme, et de ce pluralisme que j'appelle ordonné, c'est-à-dire d'un ordre juridique qui se cherche à travers la pluralité et qui n'est pas synonyme d'un ordre uniforme. En ce sens, l'Europe est un laboratoire extraordinaire. Mais en même temps, on peut dire oui, mais c'est une spécificité qu'on ne retrouve pas à l'échelle mondiale. Donc, on ne peut pas transposer purement et simplement l'expérience européenne ailleurs. C'est vrai. Mais elle peut servir dans d'autres régions. Je sais qu'il y a beaucoup d'échanges, par exemple, avec l'Amérique latine et avec le Mercosur et la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Parce que là, il y a une deuxième spécificité de l'Europe qui est intéressante à signaler et qu'on ne retrouve en Amérique latine, mais guère ailleurs.
Oui.
C'est qu'on a une structure juridique à deux pôles, bipolaires, pourrait-on dire. En gros, l'Europe juridique s'est construite autour du marché.
Oui.
Avec ce qu'on appelait la communauté économique européenne, qui est devenue la communauté européenne, le marché commun au départ, et puis l'Europe des droits de l'homme. Et nous avons deux cours suprêmes européennes, la Cour de Luxembourg pour la communauté européenne, donc au départ essentiellement le marché, et puis la Cour de Strasbourg pour les droits de l'homme. Donc une bipolarité qui est extrêmement intéressante à observer et qui intéresse notamment ces pays de l'Amérique latine que j'évoquais parce qu'ils ont maintenant eux aussi deux cours. Ils ont une cour pour les droits de l'homme, siège à Costa Rica, et ils ont depuis peu de temps une cour pour le marché qui s'appelle le Mercosur, une sorte de marché commun du Sud qui est encore fragile. Alors, pour revenir à votre question, oui, l'Europe est un laboratoire. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle à suivre. Parce que ce qui est intéressant dans un laboratoire, c'est qu'on observe ce qui marche, mais on observe aussi ce qui ne marche pas.
La distinction est très importante.
Et on peut tirer des conséquences de ce qui a échoué, ou de ce qui même a été une régression. Il ne faut pas prétendre que l'Europe, c'est une sorte d'idéal, il n'y a plus qu'à le prendre et le transposer à l'échelle planétaire, ce n'est pas vrai.
Alors, vous vous intéressez aujourd'hui beaucoup et d'autres avec vous à la question des droits de l'homme. Pour faire un petit retour en arrière, est-ce que ça représentait quelque chose quand vous avez débuté votre carrière universitaire? Est-ce que c'était des questions qu'on se posait ou qui intéressaient déjà? peu visiblement, mais...
Il y avait une réflexion dans les courants de pensée autour des droits de l'homme comme principe politique. Dans les cours de droit, il y avait très peu de choses. Il y avait les cours de liberté publique. On ne disait pas droit de l'homme, on disait liberté publique. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, dans les années 60, le droit des droits de l'homme n'existait guère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les droits de l'homme de principe politique deviennent principe juridique? Il y a eu, pour ce qui est de la France, deux événements majeurs. C'est la constitutionnalisation du droit due à deux réformes. La réforme de 1974, lorsque le Conseil constitutionnel, qui n'était pratiquement jamais saisi, il fallait que ce soit le président de la République ou le président d'une des assemblées, donc c'était très rare. La réforme a consisté à changer les conditions de saisine, à faire qu'un groupe de députés ou de sénateurs, généralement de l'opposition, puisse le saisir. Du coup, il est devenu une sorte de cour constitutionnelle, même si le nom n'a pas changé. Et ça, c'est 1974. Mais quelques années avant, en 1971, le Conseil constitutionnel, qui était alors très rarement saisi, avait fait un geste symbolique chargé de portée juridique qu'on n'imaginait pas alors, c'était d'intégrer la Déclaration des droits de l'homme de 1789 au bloc de constitutionnalité. Si vous combinez ces deux réformes, à partir de 1974, il est saisi beaucoup plus souvent et il va pouvoir être saisi sur le fondement de la violation de tel ou tel article de la Déclaration de 1789. Ça change complètement le panorama du point de vue du droit français. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'année 1974, c'est aussi l'année de la ratification par la France de la Convention européenne des droits de l'homme, qui va déclencher, avec un peu de retard, un mouvement d'européanisation à travers les droits de l'homme. Un peu de retard, pourquoi ? Parce qu'on attend encore 1981 pour accepter ce qu'on appelle le recours individuel, c'est-à-dire le fait qu'une personne qui estime être victime d'une violation puisse agir devant la Cour de Strasbourg. Et il faut encore attendre 1986 pour que la Cour prononce la première condamnation de la France.
Oui, c'est vrai.
Première condamnation dans une affaire française. Très symbolique d'ailleurs, l'affaire Bozzano, car c'était un étranger qui avait été condamné pour une infraction très grave dans son pays, qui était l'Italie, qui fait un recours contre la France, pays des droits de l'homme, donc un étranger condamné de droit commun dans son pays, et qui gagne le recours parce qu'il avait fait l'objet d'une procédure d'expulsion qui, en fait, était une extradition déguisée, donc une procédure irrégulière. Donc la France, pays des droits de l'homme, est condamnée sur la requête d'un étranger, condamné lui-même de droit commun pour un crime grave. Symboliquement, c'était très fort. Alors, vous voyez tout le temps qu'il a fallu. Ce qui fait qu'on a véritablement commencé à enseigner le droit des droits de l'homme qu'à partir des années 90.
Alors, on va revenir sûrement sur ces questions justement dans la seconde partie de l'entretien. Je voudrais vous demander aussi votre avis, puisque vous avez enseigné le droit dans les universités françaises, en gros, de 1970 à 2002. De manière générale, quel jugement portez-vous sur cet enseignement dans nos universités ?
En France ?
Oui.
Mais je crois que vous avez très. C'est un très bon enseignement du point de vue de la technique juridique et de la rigueur. Et je pense que c'est très important, la rigueur juridique. Plus le droit devient complexe et flou, plus on a besoin de rigueur. Le flou n'est pas aller vers moins de rigueur. On fait souvent le contresens sur le mot flou. La logique floue, c'est une logique qui appelle à plus de rigueur. Rigueur sur la transparence des décisions, rigueur sur les critères qui permettent de donner sens à des concepts flous. Donc, je crois que là, nous avons, dans notre formation juridique française, une force à travers la rigueur du raisonnement juridique à laquelle nous sommes tous très attachés. Le point faible, c'est peut-être un certain cloisonnement. Comme je vous l'ai dit, au fond, avec l'internationalisation du droit, les disciplines juridiques s'enchevêtrent. Ce qui est pénal en France peut être civil ou administratif ailleurs et réciproquement. Ce droit des droits de l'homme, il envahit les différents secteurs du droit sans s'arrêter aux frontières des disciplines. Or, nos modes de recrutement et nos modes d'enseignement d'abord, mais aussi nos modes de recrutement, restent construits sur les disciplines.
C'est peut-être aussi nécessaire dans un premier temps.
Oui, mais alors ça rend difficile pour les jeunes juristes qui veulent travailler sur les interfaces, droit interne, droit international, droit privé, droit public. Ça leur rend très difficile d'entrer dans la carrière juridique. Et là, il y a peut-être une certaine rigidité. Et je pense qu'il faut essayer d'allier la rigueur avec plus d'ouverture.
Pour clore un petit peu, c'est difficile, le chapitre de vos enseignements, qui se poursuivent d'ailleurs dans l'une de nos plus originales institutions, puisque vous avez été élue au Collège de France en 2002, où vous êtes titulaire de la chaire d'études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Alors, est-ce que cette chaire a été spécialement été créée sous ce nom ? J'allais dire pour vous, vous avez été élue, mais comment l'intitulé de la chaire
Oui, c'est un intitulé que j'ai proposé.
Vous avez proposé.
On m'a demandé, quand j'ai
comment
été contactée, de faire un projet de chaire.
Mmh.
Et j'ai proposé cet intitulé un peu étrange, qui se situe exactement dans le droit fil de ce que je viens de vous dire sur les études de droit. L'internationalisation du droit, c'est le thème central de cette chaire. Eh bien, ça n'est pas une catégorie juridique,
oui,
comme le droit interne ou le droit international ou même le droit comparé. C'est un mouvement.
On est dans le processus.
C'est un mouvement qui transforme l'ensemble du droit, qui transforme et le droit interne et le droit international. C'est une dynamique. Et c'est ça l'objet central. Donc, c'est un enseignement qui n'existe pas dans les facultés de droit, parce qu'il transcende, en fait, il traverse les différentes catégories juridiques. Et il transforme en même temps ces catégories juridiques en créant une sorte de tension entre le relatif et l'universel. Alors, j'aurais pu appeler simplement la chaire internationalisation du droit, mais j'ai tenu à cet intitulé un peu long et moins élégant, études juridiques comparatives et internationalisation du droit, pour des raisons en quelque sorte d'engagement de ma part. Car l'internationalisation du droit, si elle se fait sans les études comparatives, elle est possible, mais alors elle conduit tout droit à une internationalisation de type hégémonique. C'est-à-dire que le système le plus puissant, que ce soit en Europe ou à l'échelle planétaire, impose son droit aux autres pays. Et là, on a un droit internationalisé, voire mondialisé.
Et potentiellement hégémonique.
Mais potentiellement hégémonique. Donc, c'est une sorte de... C'est pas neutre, si vous voulez. Le fait d'avoir ajouté études juridiques comparatives est tout sauf neutre.
C'est le garde-fou.
C'est une sorte de garde-fou en disant l'internationalisation du droit doit passer ou devrait passer, parce qu'elle ne le fait pas toujours, par les études comparatives pour essayer de concilier la diversité et... l'union. Je pèse mes mots. Pas l'uniformité.
L'union.
Pas l'unité.
L'union.
Mais l'union, vous savez que c'est la devise d'ailleurs européenne, l'union dans la diversité. Alors souvent, on ironise là-dessus, mais c'est, en disant c'est contradictoire. Oui, mais la vie elle-même est contradictoire. Et je crois que c'est justement le défi le plus intéressant. Comment concilier le relatif et l'universel?
Alors, en 2007, Mireille Delmas-Marty, vous avez été élue à l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil numéro 1, laissé vacant par le décès de Jean Cazeneuve. Alors, vous avez été élue dans la section morale et sociologie. Que représente pour vous d'être membre de l'Académie des sciences morales et politiques ?
Écoutez, j'ai le sentiment d'une grande responsabilité. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de privilèges, mais nous avons une immense responsabilité pour que cette académie si prestigieuse, si ancienne, vous avez rappelé que c'était le fauteuil numéro 1, c'était le fauteuil de Tocqueville.
Eh oui, bien
et
sûr.
Et ça nous impose beaucoup d'exigences.
Oui,
Tocqueville,
oui.
La démocratie, l'Amérique.
Vous avez la chance d'occuper le fauteuil numéro 1, effectivement occupé par Tocqueville.
Je me suis toujours demandé s'il... revenait à l'heure actuelle sur Terre, ça s'intéresserait aussi à la démocratie en Chine. Mais en tout cas, pour revenir à ce sentiment de responsabilité, je l'ai très fort. Et j'ai l'impression que les académies, et en particulier cette Académie des sciences morales et politiques, ont un rôle majeur à jouer par rapport au débat de société actuel. Ça suppose un esprit d'ouverture. Ça suppose cet effort aussi vers les autres. Pas seulement les autres disciplines, mais aussi les autres pays, les autres cultures. Et c'est pourquoi je trouve formidable, en fait, l'initiative de Canal Academy. Parce que, pour moi, c'est l'exemple de ce que peut représenter l'Académie si elle prend ses responsabilités à l'échelle mondiale.
À vous.
Donner la parole aux différents partenaires.
Et puis, les académies ont cette mission de transmission des savoirs. Et c'est vrai que, bon, très modestement, nous diffusons par le biais de la radio, par Canal Academy, les séances, les colloques, tout ce qui est possible de
je
faire.
Je crois que c'est très important.
Pour l'instant.
Parce qu'il y a une ouverture à l'échelle mondiale qui est rendue possible par les nouvelles technologies. Et il fallait prendre place très, très tôt. Ce que vous avez fait.
Ce que l'Académie des sciences morales a fait, et la décision avait été prise par Jean Cluzel de créer Canal Academy lorsqu'il était secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences
morales.
Donc
je crois que c'est l'exemple de cette responsabilité. Il y a peut-être d'autres, il y a sûrement d'autres exemples, mais c'est celui qui me vient spontanément à l'esprit.
C'est très gentil.
Parce que je suis dans les locaux même.
Mireille Delmas-Marty, ce n'est pas tout à fait commun d'être une femme professeure au Collège de France et membre d'une des 5 académies de l'Institut de France. Et je crois que vous êtes la première à l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, il y a des liens assez profonds entre les académiciens et le Collège de France. Et là, vous êtes la première dans ce cas à l'Académie des sciences morales et politiques. Est-ce que vous pensez...
Oui, c'est vrai que mes consoeurs de l'Académie des sciences morales et politiques ne viennent pas du Collège de
voilà.
France, mais
elles existent.
D'autres institutions
voilà.
prestigieuses.
Voilà. Vous êtes combien actuellement à l'Académie? Vous êtes trois académiciennes des sciences.
Quatre avec l'élection de Madame Delsol.
Avec Madame Delsol. Donc, est-ce que vous pensez que ça va changer, qu'il va y avoir plus de femmes?
Oui, je pense qu'inévitablement, ça va changer.
L'évolution va...
Ça peut les candidatures. Évoluer assez vite à partir du moment où le mouvement est maintenant amorcé. Il est récent, hein, le mouvement.
Oui.
Il date du XXe siècle, de la deuxième partie du XXe siècle.
Oui, mais enfin, nous sommes en 2008 et vous êtes quatre.
Je pense que ça devrait évoluer assez vite, je le souhaite.
Alors, les us et coutumes varient d'une académie à l'autre, mais l'Abivaire les réunit. C'est le costume imposé aux académiciens par Napoléon, qui était lui-même membre de l'Institut. Alors, comment cela se passe-t-il aux sciences morales? Quand portez-vous l'habit? En avez-vous eu l'occasion? Je crois que c'est un petit peu tôt. Parce
oui,
que,
je crois que c'est un peu tôt pour me poser la question, parce que j'ai été élue il n'y a pas très longtemps.
Voilà, en mai dernier, en mai 2007.
Je n'ai pas encore eu l'occasion. Je n'ai pas encore, d'ailleurs, d'habit.
Et puis, je crois que la remise d'épée ne s'est pas encore...
Pour la remise de l'épée, il y a des amis qui sont en train de constituer un comité. Autour de l'idée, qui est intéressante, d'une épée qui symboliserait en quelque sorte l'humanisme juridique. Alors, comment une épée peut-elle symboliser l'humanisme juridique? Il y a tout un travail conceptuel qui est en train de se faire autour de deux thèmes qui seraient la force éclairante de la flamme.
Oui.
Donc, la lame serait une flamme. Et puis, la forme, la force et la forme en même temps pour le droit, la forme évolutive de ce que j'appelle dans l'un de mes livres les nuages ordonnés.
Ah, une belle métaphore.
Et il y a à l'heure actuelle un projet d'utiliser une pièce de jade chinoise qui représente symboliquement des nuages qui pourraient faire partie de cette épée qui n'existe pas encore, qui est à l'état de rêve pour l'instant.
Alors écoutez, merci Mireille Delmas-Marty d'avoir accepté de présenter votre parcours pour les auditeurs de Canal Academy dans cette première partie d'émission. Merci, merci beaucoup.
Un nouvel Nouvel espace est lancé sur le site de Canal Académie, l'espace Apprendre, un espace d'écoute active pour vous, professeurs et enseignants, élèves et étudiants, avec des suggestions d'activités pédagogiques à partir d'extraits d'émissions. Un espace d'auto-formation à distance, ouvert à tous, téléchargeable facilement et gratuitement, avec l'espace Apprendre de Canal Académie, établi en partenariat avec le Cavilab. Vous allez découvrir le plaisir d'apprendre.
Vous écoutez Canal Académie.
Mireille Delmas-Marty, abordons maintenant un peu les plus longuement les thèmes de votre enseignement au Collège de France, où vous exercez depuis 6 ans. Alors, vous vous intéressez principalement à l'universalisme juridique, qui est un petit peu le point de départ de vos analyses. Comment le définiriez-vous ? C'est l'objet de vos réflexions dans le tome 1 de votre livre.
Oui, enfin, le relatif et l'universel. Hein.
Ah, je me suis trompée.
Donc, non, vous n'êtes pas trompée, mais c'est la tension, oui. L'universalisme comme une tension avec deux pôles, le relatif et l'universel. Donc, comment s'organise cette tension ? Le point central, c'est l'internationalisation du droit en tant que processus, en tant que mouvement. Mm-hmm. Et le premier volume qui correspond en fait à mes 2 premières années de cours est centré sur le relatif et l'universel. Alors, la première partie est centrée sur l'universalisme juridique, et donc on y vient, vous n'êtes pas trompé. Et la deuxième partie sur le relativisme. C'est voilà, sans détail des lieux que j'ai voulu faire. Ensemble. Alors, ce que j'ai montré, c'est que l'universalisme juridique, c'est quoi ? Bien, ce sont des concepts comme les droits de l'homme, ce sont aussi des concepts comme crime contre l'humanité ou patrimoine commun de l'humanité, ou encore le marché, qui a vocation, prétention à l'universalisme. Alors, ce que je montre dans cette première partie, ce sont les faiblesses. La première partie s'appelle « Les faiblesses de l'universalisme juridique ». C'est un peu une critique dure. Pourquoi je parle de faiblesses ? Parce que ce sont des concepts flous, imprécis, parce que ce sont des normes souvent ineffectives. Les droits de l'homme, on en parle beaucoup, on ne les applique pas toujours. Même chose pour l'humanité, pour le marché, il y a une application mais qui n'est pas forcément conforme à celle que les modèles théoriques imaginent ou rêvent. Et puis, c'est peut-être la critique majeure, ce sont des valeurs en conflit.
Oui.
Il y a des conflits à l'intérieur même des droits de l'homme, liberté contre sécurité, vie privée contre liberté d'expression. Il y a des conflits parfois entre droits de l'homme et droits de l'humanité. Défendre l'humanité, c'est quelquefois conforme à défendre tel individu, mais ça peut aussi aller dans un sens différent. Et surtout, il peut y avoir des conflits entre droits de l'homme ou droits de l'humanité et droits du marché. Donc, le point de départ, ce sont les faiblesses de l'universalisme juridique, d'où la nécessité, pour faire un état des lieux complet, de regarder de l'autre côté. Est-ce que du coup, il faut se replier sur le relativisme, sur une vision cloisonnée des systèmes de droit identifiés aux États, le droit identifié à l'État ? Alors là, le problème que j'examine, c'est qu'il y a des limites au relativisme juridique en raison des phénomènes liés à ce qu'il est convenu d'appeler la globalisation ou la mondialisation, qui en gros... il y a plusieurs mondialisations dans l'histoire de l'humanité, mais celle dont on parle à l'heure actuelle le plus, c'est celle qui, au fond, a suivi la fin de la guerre froide, donc qui date des années 90, c'est ce qui est la période qui a suivi, avec la globalisation économique qui a entraîné toutes sortes de conséquences. Je dirais, il y a en gros une globalisation des flux, Internet en est un exemple, oui. Et aussi les flux financiers. Il y a une globalisation des risques. Les risques biotechnologiques sont à l'évidence des risques mondiaux. Et de même, les risques écologiques. Tout le débat sur le changement climatique se situe d'emblée à l'échelle globale. Et puis, il y a une globalisation des crimes. La corruption se développe au-delà des frontières. Le terrorisme devient global et bien d'autres manifestations encore. Donc, au fond, le point de départ de ma réflexion, c'est cet état des lieux. D'un côté, on a un universalisme juridique qui a beaucoup de faiblesses. De l'autre, le maintien du relativisme dans la vision traditionnelle n'est pas efficace face à la globalisation, face aux interdépendances qui se sont développées considérablement entre les différents États du monde. Donc, il faut arriver à dépasser cette contradiction entre le relatif et l'universel, aller par-delà le relatif et l'universel. C'est un peu ça le point de départ de ma démarche.
Alors, Pierre Manon disait l'autre jour, au cours d'une séance de l'Académie des sciences morales et politiques, en parlant de l'idéologie des droits de l'homme, que cette idéologie des droits de l'homme regroupait aujourd'hui des règles de droit de sources divergentes. Différentes règles de droit, bien sûr, mais surtout de sources divergentes. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la question des droits de l'homme, c'est une norme, ou bien est-ce qu'elle est en train de le devenir ? Et vous dites dans un de vos ouvrages que le droit économique et commercial a en quelque sorte doublé de vitesse cette question. Alors, ça fait beaucoup de choses, on est d'accord.
J'ai touché beaucoup de questions en une seule. D'abord, j'insiste sur le fait de la transformation des droits de l'homme d'une vision idéologique vers un instrument juridique. À partir du moment où on peut argumenter à partir d'un texte, que ce soit la déclaration de 1789 invoquée devant le Conseil constitutionnel français ou la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme devant la Cour européenne des droits de l'homme, on peut argumenter, construire un argument juridique devant un juge qui en tire des conséquences, les droits de l'homme sont devenus du droit positif. Et c'est d'ailleurs à ce sujet quelque chose de tout à fait nouveau. On peut condamner un État, on peut condamner une loi. D'abord, on peut censurer une loi parce qu'elle est une violation des droits de l'homme. On peut condamner un État pour violation des droits de l'homme. Donc, ils sont devenus... du droit positif, c'est la situation actuelle. Et je me souviens, c'est un détour apparent, mais je crois qu'il aide à comprendre l'ampleur de la transformation. Je me souviens de la surprise d'un étudiant chinois. Il y a quelques années, nous avions créé à Paris 1, à l'Université de Paris 1, un cycle de formation pour des jeunes juristes chinois, pour leur faire découvrir la France et l'Europe. Le droit français, les grandes familles juridiques des pays européens et le droit européen international. Et il faisait un stage à la Cour de justice de Luxembourg pour l'Europe de la Communauté européenne et à Strasbourg pour découvrir l'Europe des droits de l'homme. Et il se passait 15 jours à Strasbourg, à assister à des audiences. À la fin de l'année, on fait un séminaire d'évaluation avec ce groupe d'étudiants et il y avait un peu un chef de file qui prend la parole au nom de ses camarades et qui me dit avec un immense sourire, « Vous savez, madame, quand on est arrivé en France, on détestait les droits de l'homme. » Ah, j'ai dit, bon, pourquoi vous détestiez les droits de l'homme ? Eh bien, ils en avaient une vision, ils voyaient les droits de l'homme comme un discours idéologique inventé par les Occidentaux pour critiquer la Chine. Et me dit-il, avec toujours son grand sourire, après les 15 jours passés à Strasbourg, à assister à des audiences de la Cour, on a découvert d'abord que les droits de l'homme entraient dans un argument juridique, ce n'était plus un discours idéologique, on bâtissait un raisonnement juridique à partir de là, alors avec une rigueur sans doute encore insuffisante, mais avec un effort de rigueur et d'objectivité. Et puis on a découvert qu'on ne parlait jamais de la Chine à Strasbourg, mais que les pays européens étaient tous concernés, même ceux qui se considèrent traditionnellement comme la patrie des droits de l'homme, l'Angleterre ou la France, les uns après les autres, sont condamnés sur telle question ou telle autre. Donc ça, c'est l'entrée des droits de l'homme dans le champ juridique qui n'est pas une situation totalement mondialisée. Il y a beaucoup de régions du monde où il n'y a pas de cour des droits de l'homme. Mais en Europe, c'est une véritable révolution.
Est-ce qu'il y a une hiérarchie des normes ?
Il y a une hiérarchie,
une pyramide. Qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles de droit justement sur ce sujet ? Est-ce que c'est toujours opératoire ?
Il y a une hiérarchie des normes et pour symboliser cette hiérarchie des normes, on cite toujours le juriste Kelsen qui avait cette belle métaphore de la pyramide des normes. Les normes qui vont de la base au sommet dans une relation hiérarchique stricte et rigoureuse. Alors cette pyramide, elle est immobile, elle est stable et elle est censée représenter le système de droit dans une vision très rassurante parce qu'elle est rigoureuse.
Bon. Alors justement,
la hiérarchie n'a pas totalement disparu, heureusement. Elle est quand même un gage de sécurité juridique, mais elle ne représente plus qu'une partie des processus d'engendrement des normes, en raison notamment, en raison d'abord de la prolifération des lois, phénomène d'inflation législative qui fait que beaucoup de lois sont contradictoires entre elles, et ce n'est pas évident d'appliquer un principe de hiérarchie entre des lois contradictoires. Et puis surtout, en raison de l'internationalisation du droit, qui introduit des normes supranationales, régionales ou mondiales, mais qui n'introduit pas un strict emboîtement entre le niveau national, le niveau régional et le niveau mondial. Pour qu'il y ait une pyramide à l'échelle mondiale, il faudrait qu'à tous les niveaux, il y ait des systèmes de contrôle très rigoureux. Des juges internationaux chargés de contrôler le respect par le législateur national de la norme européenne, par exemple, puis le respect par le législateur européen de la norme mondiale. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, même comme fiction, la métaphore de la pyramide ne représente plus la réalité juridique telle qu'elle se met en place. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai proposé, mais de façon un peu provocatrice...
À la place de la pyramide, qu'est-ce que vous
proposez ? La métaphore des nuages. Alors, évidemment, les nuages, c'est un clin d'œil à l'instabilité des systèmes de droit. J'ai ajouté les nuages ordonnés pour marquer une sorte de projet encore utopique de concilier les contradictions entre l'instabilité et l'ordre. Est-ce qu'il est possible de concevoir de façon rigoureuse un ordre à travers la complexité et l'instabilité ? Je reconnais que c'est un peu provocateur, mais l'idée, sinon, alors la métaphore qu'on utilise en général dans la théorie du droit, c'est plutôt le réseau. Opposer le réseau à la pyramide. Cela dit, le réseau, c'est une métaphore qui est très ouverte parce qu'il y a des réseaux avec des têtes de réseau. Donc, on peut réintroduire de la hiérarchie dans les réseaux. Et il y a d'autres réseaux qui sont purement horizontaux. La verticalité qui est, au fond, symbolisée par la pyramide, on peut la réintroduire dans certains réseaux, mais pas dans tous.
Est-ce que, justement, un réseau international de juges pourrait-il se substituer à cette structure un peu défaillante ? Enfin, ce n'est pas une structure, mais...
Les relations entre juges, elles sont extrêmement complexes aussi. Il y a des relations purement horizontales, et on peut parler de réseau de juges à travers ce qu'on appelle aussi souvent dans la doctrine actuelle le dialogue des juges. C'est-à-dire les juges des cours suprêmes, notamment, ont découvert l'existence des autres cours suprêmes. Ce que faisaient depuis longtemps les pays du Commonwealth britannique, ils se citaient les uns les autres, les juges des cours se citaient, mais ce qu'on ne faisait pas ailleurs.
D'accord.
Et depuis une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, c'est assez récent, il y a un phénomène qu'on appelle le dialogue des juges. Même la Cour américaine, la Cour suprême des États-Unis,
Elle fait référence
dans des affaires quelquefois délicates, comme ce qui touche par exemple à la peine de mort, à des jurisprudences d'autres parties du monde, et même de parties du monde qui échappent au système de common law, qui est sa famille juridique naturelle. Elle cite par exemple la Cour européenne des droits de l'homme, alors qu'elle ne fait pas partie de l'Europe, donc il n'y a pas de relation hiérarchique. Mais ça, ce sont des réseaux purement horizontaux. Mais vous avez aussi des relations... verticale ou semi-verticale, par exemple, entre les juges nationaux européens et les juges de Strasbourg ou de Luxembourg, qui ont vocation à être supranationaux.
Oui.
Donc, quand on parle de réseau de juges, ça recouvre des réalités très différentes. Tantôt des relations purement horizontales, d'échange, de réciprocité, tantôt des relations semi-verticales.
Alors, comment s'organisent aussi les pouvoirs législatifs, judiciaires, exécutifs au niveau international ? Ça, c'est aussi, vous présentez dans vos ouvrages, en quelque sorte, ce paysage juridique de ce début du XXIe siècle. Où est-ce qu'on en est là, un petit peu ? Si vous pouviez nous présenter cette organisation,
oui, alors, c'est
un peu difficile.
Quand on me demande de présenter le paysage juridique du XXIe siècle,
c'est comme de vous poser la question.
Je dis, c'est le grand désordre. Ce sont des processus de transformation, tantôt horizontaux, tantôt verticaux. Ce sont des niveaux d'organisation multiples. Mmh. Le niveau national, le niveau régional
et le niveau mondial. À trouver de l'ordre dans tout ça.
Et je commence par le désordre.
Oui.
Le grand désordre juridique du monde. Ce sont mes premiers mots pour décrire les champs juridiques tels que je le vois. Alors, avec ces processus apparemment contradictoires, tantôt horizontaux, tantôt verticaux, ces niveaux qui se situent sur des plans différents, et j'ajoute au grand désordre du monde les vitesses de transformation qui ne sont pas les mêmes d'un secteur à l'autre ou d'un pays à l'autre. Donc, le point de départ est un grand désordre. Et la question est de savoir s'il est possible d'ordonner tout cela, d'ordonner ces nuages qui changent à toute vitesse ou à des vitesses différentes. Donc, c'est ça l'interrogation. Et ce que j'essaye de faire, c'est de voir quels sont les instruments et quels sont les acteurs. Quels sont les instruments qui permettraient d'ordonner de façon aussi pluraliste que possible ce champ juridique mondial. Est-ce qu'on peut concevoir un ordre mondial qui soit pluraliste, qui ne soit pas uniforme? Et pour le concevoir, quels sont les acteurs qui vont intervenir, à quel titre et comment?
Alors, qui sont les acteurs de...
Alors, les acteurs, de si on essaye de transposer
de ce nouveau champ juridique mondial, qui voit l'internationalisation du droit, c'est
si
ça.
Si on essaye de transposer ce qu'on connaît au plan interne, on a des acteurs publics et des acteurs privés.
Oui.
Au plan interne, les acteurs publics, c'est essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement l'État. Au plan international, les acteurs publics, ce sont les représentants des États et les organisations internationales, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Mais ce qui est très intéressant, d'observer, c'est qu'au plan mondial, ces acteurs publics ne respectent pas la fameuse théorie de la séparation des pouvoirs, car il n'y a pratiquement pas de législatif. Il y a un Parlement européen qui conquiert peu à peu quelques pouvoirs. À l'échelle mondiale, il n'y a pas de Parlement, donc il n'y a pas de législatif. L'exécutif reste pour l'essentiel celui des États membres qui défendent donc des intérêts nationaux. Il n'y a pas un exécutif mondial pour défendre l'intérêt général mondial. En revanche, il y a des juges. Et finalement, il y a cette montée en puissance des juges qui est un élément frappant de la mondialisation. Montée en puissance des juges internationaux, les juges pour le commerce, les juges pénaux, mais aussi montée en puissance des juges nationaux qui se mondialisent.
Oui.
Dont certains prétendent ou ont vocation, parce que leur loi est extraterritoriale, à appliquer leurs droits à l'ensemble de la planète. Donc il y a, par rapport au fameux équilibre des pouvoirs, il y a plutôt un grand déséquilibre en ce qui concerne les pouvoirs publics à l'échelle mondiale. Mais en revanche, il y a un élément qui peut être un élément de rééquilibrage qui vient de ce qu'on appelle parfois la société civile. Alors, la société civile, j'aime pas beaucoup l'expression parce qu'elle regroupe des intérêts très divers. Elle regroupe les opérateurs économiques, qui sont extrêmement importants à l'échelle mondiale, mais aussi les acteurs qu'on peut appeler civiques, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les groupements privés, non économiques. Et puis, la société civile, elle comprend aussi les acteurs très importants à l'échelle mondiale, qui sont les experts, les acteurs scientifiques. Alors, acteurs scientifiques au sens des sciences dures, je pense au rôle des chercheurs dans tout le débat sur le changement climatique, dans l'adoption du protocole de Kyoto et de l'après-Kyoto. Les chercheurs ont joué un rôle absolument majeur. Mais on peut aussi penser au rôle des experts juridiques auprès de la Banque mondiale et dans différentes instances. Donc, on a une configuration des pouvoirs à travers les acteurs qui n'est pas la reproduction de ce que nous connaissons à l'échelle nationale. Ça rend difficile d'apprécier comment se répartissent les pouvoirs. et comment la volonté politique peut se dégager de ses pouvoirs. D'autant que, alors j'ai essayé, dans le, c'est prenez... le volume sur la, la refondation des pouvoirs, j'ai essayé d'articuler en fait trois verbes. Pouvoir, vouloir et savoir. Comment articuler les trois ?
Vous expliquez que ça doit repasser par une fondation des pouvoirs, par ce rééquilibrage-là entre les différents acteurs. Alors, quelle forme ça va avoir ? Je vous ai interrompu, pardon.
Mais quelle forme ? Il n'y a pas un projet, il n'y a pas de projet de constitution mondiale à l'heure actuelle.
Alors, ça serait un principe ?
Non, il y a plutôt une réflexion sur la légitimité des différents acteurs. Par exemple, en l'absence de Parlement mondial, quels sont les acteurs qui sont le plus légitimes pour traduire une sorte de volonté générale à cette échelle-là ? Alors, la légitimité politique, elle est d'abord celle des États. Et je crois qu'il ne faudrait surtout pas affaiblir
cette légitimité,
la légitimité des États, qui paraît un élément essentiel, parce que même si tous les États ne sont pas démocratiques, loin s'en faut, on a besoin d'eux comme source première de légitimité politique. Ensuite, se pose la question de la légitimité des acteurs de la société civile. Et là, ça pose toute une série de questions très concrètes autour des problèmes de conflits d'intérêts. Quand une organisation non gouvernementale prétend représenter l'intérêt général, il faut savoir quels sont les intérêts qu'elle défend réellement. Ils ne sont pas toujours identiques à l'intérêt général. Quelles sont les conditions qui pourraient améliorer la représentativité de la société civile ? C'est une question difficile. On la retrouve pour les acteurs scientifiques et on la retrouve, mais c'est plus transparent peut-être pour les acteurs économiques.
Et donc, pour les acteurs économiques, on a même. Est-ce qu'il y a un contrôle plus efficace de. Ou pas
Donc, pour les acteurs économiques, il y a un débat à l'heure actuelle, par exemple, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, pour savoir s'il faut reconnaître une responsabilité en matière de violation des droits de l'homme. Il y a tout un débat sur la responsabilité des États.
Oui.
Mais le nouveau débat, c'est sur la responsabilité de certaines entreprises multinationales. Et là, il y a des projets
de santé, des choses.
Oui, ou des séquestrations de certains ouvriers. Il y a des affaires avec la Birmanie qui ont été très, très sensibles à la fois aux États-Unis et ailleurs. En droit du travail, pour les droits sociaux, il y a pas mal de domaines des droits de l'homme qui sont concernés. Et là, il y a un travail d'exploration, je dirais, qui se fait à l'heure actuelle. Il y a un travail d'exploration qui se fait sur le statut des organisations non gouvernementales, comment améliorer l'impartialité et l'indépendance, et sur le statut des experts. Donc, vous voyez, c'est un vaste chantier.
Merci. On va marquer une courte pause et vous retrouver dans quelques instants.
Sur Canal Académie, découvrez le parcours étonnant du naturaliste Théodore Monod de l'Académie des sciences. Initialement océanographe, il tomba littéralement amoureux du désert où jusqu'à ses 92 ans, il foula le sable de longues marches, toujours à l'affût de nouvelles plantes, fossiles ou roches. Retrouvez dans notre médiathèque la vie de Théodore Monod, contée par son biographe Roger Kans.
Canal Académie.
Mireille Delmas-Marty, poursuivons notre entretien sur la présentation de vos travaux de recherche. Nous parlions tout à l'heure des différents acteurs. Comment, sur quelle base commune peuvent s'accorder les acteurs économiques, politiques et sociaux ? Que peuvent-ils s'interdire et sur quelles valeurs peuvent-ils s'entendre ? Ou quelles valeurs peuvent-ils promouvoir ?
Alors, ce sont beaucoup de questions difficiles. Je vais peut-être essentiellement essayer de vous répondre sur le terme des valeurs, parce que c'est la question majeure à l'heure actuelle, à travers l'internationalisation du droit. Est-ce qu'on peut parler de l'émergence d'une communauté de valeurs à l'échelle internationale, régionale, voire mondiale ? Alors, c'est la question que j'aborde depuis 2 années maintenant, enfin c'est la 2e année en 2008, dans mon cours du Collège de France, avec un immense point d'interrogation. Allons-nous vers une communauté de valeurs ? Point d'interrogation. Immense point d'interrogation. Pour aborder cette question, je pars du droit. Donc, l'idée, c'est qu'on va du droit à l'éthique. Est-ce que le droit est le reflet d'une éthique commune qui serait en train de se mettre en place? C'est un peu ça mon hypothèse. Mais le droit, quel droit? Alors, j'ai pris un plan assez simple, c'est de commencer par le droit pénal, c'est-à-dire les crimes internationaux.
Okay.
Dans la mesure où il me semble que l'interdit qu'exprime un crime international pourrait être, comme il l'a été au plan national, l'interdit fondateur d'une communauté de valeurs. Donc, il y a une première partie de mon travail que j'ai essentiellement développée en 2007 autour des interdits fondateurs, c'est-à-dire des crimes internationaux à vocation universelle, comme le crime de guerre ou le crime contre l'humanité. Et là, l'hypothèse que je pose, c'est de savoir si à travers ces termes, il n'y a pas la volonté de construire une sorte de droit pénal de l'inhumain. Donc de se mettre d'accord, ce qui est loin d'être évident, entre des pays de culture et de tradition juridique et religieuse parfois différentes, sur ce qu'est l'inhumain, quelles sont les limites qu'on ne veut pas transgresser, dont on n'admet pas la transgression. La question est assez difficile parce que le droit pénal de l'inhumain est combattu d'une certaine manière par l'émergence de nouvelles visions du droit pénal à partir du 11 septembre, à partir des attentats du 11 septembre 2001.
Alors, quelles sont les logiques adverses ou les problèmes?
Alors, je ne sais pas s'il faut parler de logique adverse, mais en tout cas, il y a un coup d'arrêt à l'idée que le droit pénal de l'inhumain pourrait être une vision commune à tous les États et commune par-delà les États à tous les humains. Cette conception-là est remise en cause à partir du moment où les attentats du 11 septembre déclenchent un mouvement qu'on appelle la guerre contre le crime. La guerre contre le terrorisme ou la guerre contre le crime, c'est le mot d'ordre lancé par le président des États-Unis, un peu comme un slogan. Mais c'est plus qu'un slogan, parce qu'il y a tout un régime juridique de renationalisation, de militarisation du droit pénal, voire de désindividualisation dans la mesure où c'est l'appartenance à tel ou tel groupe qui permet de justifier la qualification de criminel. Et donc, une sorte de remise en cause du droit pénal national classique, mais pas au profit d'un droit international, d'un droit commun qui se mettra en place.
C'est récupéré.
Au profit d'un durcissement, en fait, de la répression. Et on a, en quelque sorte, dans le domaine des interdits, deux paradigmes au sens de systèmes de pensée opposés. Le droit pénal de l'inhumain d'un côté, ce qu'on pourrait appeler le droit pénal de l'ennemi de l'autre, ou si vous préférez, le crime de guerre d'un côté, limiter l'inhumain dans les guerres, et la guerre contre le crime de l'autre, qui va jusqu'à légitimer l'inhumain, puisqu'on a vu dans certains cas précis une sorte de légitimation de la torture, qui est le traitement inhumain par excellence. Ce qui fait que cette hypothèse de bâtir une communauté de valeurs sur les interdits fondateurs, elle est difficile à vérifier dans l'état présent. On peut noter les éléments qui vont en ce sens, qui la favorisent, et on peut noter aussi les éléments qui la bloquent.
Mon interrogation aussi, c'est comment les juristes, justement, de toute origine, de toute culture, peuvent élaborer une conception universelle de la responsabilité. Comment est-ce que ça peut...
La responsabilité pénale, vous voulez dire. Mais c'est là qu'il est intéressant d'avoir une sorte de casuistique de mise en œuvre pratique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de bâtir des textes et de définir en théorie un crime contre l'humanité. Il faut voir concrètement, dans des situations particulières, ce qui entre dans cette définition au regard de la diversité des cultures. Et là, il y a un travail que font les juges internationaux. Alors, la Cour pénale internationale, elle n'a pas encore rendu de condamnation. Elle est entrée en fonction seulement en 2002. C'est assez récent. Il y a eu des décisions provisoires, mais il n'y a pas eu de condamnation. En revanche, pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, les tribunaux qui avaient été mis en place en 1993-94 ont rendu toute une série de décisions qui permettent déjà de voir comment le juge travaille pour essayer, sur des cas concrets, à travers une discussion entre des juges qui appartiennent à des familles juridiques différentes et à des cultures juridiques différentes, comment se mettre d'accord petit à petit. Et ça se fait au coup par coup. C'est un travail d'ajustement lent et progressif pour donner un contenu au crime contre l'humanité. C'est vrai que la notion d'humanité n'est pas comprise de la même manière par les différentes cultures. Donc, il faut petit à petit voir ce qu'il y a de commun entre l'assassinat, la torture, le viol, quand ils sont qualifiés de crimes contre l'humanité. Alors, ce qui se dessine, au fond, c'est que derrière cette expression très, très théorique et très abstraite de l'humanité valeur, ces crimes internationaux essayent de dire deux choses. D'une part, que l'humanité, c'est la singularité de chaque être humain. On ne peut pas réduire un être humain à son appartenance à un groupe, qu'il soit ethnique, religieux, voire génétique, et l'exterminer ou le discriminer en raison de son appartenance à ce groupe. Ça, c'est le principe de singularité, qui est au fond dans le prolongement de la vision individualiste. Mais il y a en même temps, et de façon indissociable, un principe d'égale appartenance. Chaque être humain appartient à la même communauté. On ne peut pas nier l'égale appartenance de chacun à la communauté humaine. Donc, il y a à la fois un principe de différenciation, nous sommes tous différents, et un principe d'intégration, nous sommes tous intégrés dans la même communauté. Et au fond, c'est un peu le dénominateur commun, ce double principe, qui permet peut-être de commencer à comprendre ce que peut signifier, en termes de communauté de valeurs, l'interdit du crime contre l'humanité. Mais ce n'est certainement pas suffisant pour bâtir une communauté de valeurs, parce que fort heureusement, le crime contre l'humanité ne concerne pas toute la population mondiale et ne concerne pas la vie quotidienne de la plupart des gens. D'où la nécessité de regarder aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des droits fondamentaux. Les valeurs se construisent par les interdits, mais aussi par les droits, qui sont le corollaire.
Mireille Delmas-Marty, cette année, le programme de votre cours au Collège de France pour 2008 s'intitule « Vers une communauté de valeurs, point d'interrogation ». C'est la poursuite de votre cours, évidemment, de l'an dernier. Alors, vous pouvez nous présenter les thèmes que vous allez aborder ?
Alors, après les interdits fondateurs, donc la présentation des crimes en 2007, mon idée est d'aborder cette année la question des droits fondamentaux, c'est-à-dire d'abord la question des droits de l'homme. J'insiste sur le fait que c'est une question. Est-ce que les instruments juridiques de protection des droits de l'homme expriment des valeurs universelles ? On sait que c'est discuté et je veux reprendre cette discussion sur des grandes questions, qu'il s'agisse de la vie et de la mort, de l'humain et de l'inhumain, ou encore la question de l'humain et du non-humain. On discute beaucoup sur les droits de l'animal ou sur les droits de l'environnement. Mais à mon avis, c'est insuffisant pour réfléchir sur une communauté de valeurs de se limiter aux droits des droits de l'homme. Donc, ce que j'aimerais faire également dans ce cours, c'est aborder la recherche de valeurs universelles qui seraient en formation à travers ce que l'on commence à appeler les biens publics mondiaux. Les biens publics mondiaux, c'est un concept qui est venu de la Banque mondiale et d'une approche économique des problèmes, qu'il s'agisse de la santé ou de l'environnement à l'échelle mondiale. Mais cette approche économique a des conséquences juridiques et au fond, la question que je me pose, c'est de savoir s'il pourrait y avoir une sorte de synergie entre les droits de l'homme et les biens publics mondiaux, les uns et les autres se complétant mutuellement au lieu de s'opposer, comme on le dit parfois, pour bâtir cette communauté de valeurs qui reste de toute façon encore en formation et peut-être encore utopique.
Mireille Delmas-Martin, merci de nous avoir présenté l'ensemble de vos travaux, de vos recherches et ce programme d'enseignement qui va, je suppose, attirer de nombreux auditeurs.
Merci à vous.